marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
J'ai demandé aux personnes qu'il pourrait choquer de ne pas prendre l'écoute pour éviter toute surprise et tout reproche ultérieur.
Le contrôle du cinéma en France.
La législation française est ainsi faite que pour projeter un film, il faut qu'il ait un visa d'exploitation qui est donné par le ministre de la Culture. Et auparavant, le ministre de la Culture demande à la commission de contrôle son avis. Et cet avis est un avis de prévention quand des films peuvent être dangereux pour le psychisme des jeunes, pour leur comportement social, les empêcher de développer leur personnalité normalement, eh bien, on met une interdiction au moins de 13 ans ou au moins de 18 ans.
Jean-François Théry, longtemps président de la commission de contrôle, puisque nous allons parler aujourd'hui du point de vue de l'État, autant reprendre le vocabulaire de l'État. La dite commission qui délivre les visas d'exploitation affiche son intention de ne pas toucher à la liberté d'expression des auteurs. Les commissaires, on peut employer ce mot-là pour les membres d'une commission, mettent en commun le sens qui leur paraît être celui des films qui leur sont soumis. Si des difficultés apparaissent et demeurent, la nécessité les amène à supprimer des spectateurs potentiels en opérant une classification par âge. Les commissaires ne sont pas des censeurs, mais des suppresseurs, nuance d'importance. À sa naissance, il y a 100 ans, il était demandé à la commission de préserver les intérêts nationaux. On attendait aussi d'elle qu'elle écarte les images révolutionnaires ou de grève. Sa justification première est maintenant la protection de la jeunesse. Les professionnels du cinéma reconnaissent sa nécessité comme un moindre mal. D'ailleurs, ils y participent. La censure, c'est toujours un peu une coproduction. Il est vrai que depuis le long règne de Jacques Lang et la culture jusqu'à l'an 2000, elle a connu une période très libérale. Aujourd'hui, cette parenthèse est refermée. On observe un raidissement. Le contraste est frappant entre le désordre qui règne sur le net et l'ordre que certains essayent de rétablir dans les salles. L'interdiction moins de 18 ans, qui avait été abaissée à 16, est revenue. Un critère supplémentaire est davantage mis en avant, celui de l'atteinte à la dignité humaine. Surtout, des associations contestent devant la justice les décisions de la commission et ses classifications. Et à plusieurs reprises avec succès. Le branle a été donné par les catholiques dévots, mais d'autres minorités seront tentées de mener des guérillas similaires. Ceux qui pensent que la liberté d'expression est appelée automatiquement à se développer sans cesse sont un peu naïfs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie d'Arnaud Esquéré, bonjour.
Bonjour.
Auteur de Interdire de voir aux éditions Fayard. Alors vous êtes un homme aux curiosités multiples, vous êtes un grand lecteur. Quand avez-vous été éveillé au cinéma ?
Assez tardivement, puisque j'ai grandi dans un univers de livres, au milieu des livres dans lesquels il n'y avait ni la télévision, ni le cinéma. Et donc je dois avouer que je n'ai commencé à véritablement aller au cinéma et à regarder la télévision qu'à partir de mes 18 ans.
Donc vous avez échappé à beaucoup de risques. Vos travaux sont multiples et celui-ci sur la censure au cinéma, on va bientôt adopter, c'est promis, le mot « contrôle ». Et le dernier d'une trilogie consacrée au rôle de l'État. Alors vous avez observé l'état de biais hein, par la lutte contre les sectes, par l'organisation des sépultures et la sanctuarisation des cendres. Et voilà, censure. Censure, oui, on reviendra peut-être sur le mot, mais si on commence par l'histoire... Vous insistez sur le fait que, sous l'Ancien Régime, pour les livres, elle était centralisée et que, pendant la Révolution française, elle a été décentralisée.
Oui, c'est-à-dire qu'au début dans les premières années de la Révolution française, en 1790-1791, on s'est préoccupé notamment du théâtre, puisque une des filiations pour le cinéma qui est un spectacle, c'est de voir d'où vient cette idée de contrôler les spectacles. Et la question s'est posée pendant la Révolution française, où on a supprimé la censure royale qui était centralisée, et à ce moment-là, on s'est posé la question de savoir si on ne devait pas avoir un contrôle local. Certains étaient défavorables à ça, comme Robespierre, et finalement a été voté un pouvoir de police municipale.
En 1790, il s'agissait de maintenir l'ordre public si des contre-révolutionnaires tenaient une scène et que les révolutionnaires venaient la contester. Autant mettre de l'ordre dans tout ça. L'exemple, c'est le premier son que nous avons sélectionné, que nous vous donnons, vient de la Vendée militaire. C'est drôle, des herbiers, là où on luttait contre la Révolution française avec acharnement. Nous sommes en 1992.
Bonjour, vous êtes bien au cinéma Grand Écran. Attention, la diffusion du film Basique Instinct a été interdite par Madame le Maire.
Depuis mardi, les habitants des Herbiers apprennent donc à vivre sans leur grand écran, leur cinéma, le seul de la commune. La cause, vous venez de l'entendre, Basic Instinct, le dernier film de Paul Verhoeven, qui était à l'affiche cette semaine, ne plaisait pas au maire Jeanne Briand, 69 ans. Une décision prise alors qu'elle n'avait pas encore vu le film.
Je voudrais susciter un mouvement d'opinion contre le crime, contre la violence qu'on étale tous les jours, à longueur, à largeur d'écran, soit au cinéma, soit à la télévision.
Qu'est-ce qui vous choque dans ce film ?
La violence, cette violence qui nous submerge, qui nous envahit de tous côtés.
Du côté des bénévoles et de l'association gérante le cinéma, la salle appartient à la ville, cette décision a été plutôt mal accueillie. Prévenu trop tard, on n'a pas pu remplacer Basic Instinct par un autre film. Du coup, on a fermé le cinéma pour une semaine.
Il n'y a pas besoin que la salle appartienne à la municipalité. C'est pas seulement l'affichage qui peut être interdit.
Un maire peut interdire un spectacle, et cela depuis la Révolution française, justement. Donc ça a été pratiqué pour le théâtre, et ensuite ça s'est posé pour le cinéma. Au début du cinéma, le cinéma a été inventé dans les années 1890, et en fait, une dizaine d'années après, des maires ont interdit, au début du XXe siècle, certains films. Et il y a toujours eu une tension entre une censure centralisée qui a été mise en place avec le Visa en 1915, et puis avec cette commission dont on peut considérer que la première commission rattachée au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts date de 1919, donc centralisée, et une tension locale, c'est-à-dire que certains maires peuvent interdire des films avec un arrêté municipal, et ça a traversé tout le XXe siècle.
Et ça demeure.
Et ça demeure encore aujourd'hui. Pour vous raconter une anecdote, la question s'est posée aussi par rapport aux affiches de films, notamment avec un film d'Alain Guiraudy qui s'appelait L'inconnu du lac. Sur l'affiche, en fait, on voyait deux hommes s'embrasser, et à Versailles notamment, des associations se sont mobilisées pour demander de retirer l'affiche. Et j'avais noté que le maire en fait l'avait interdit, et le correcteur dans le livre qui a corrigé mon livre m'a signalé qu'en fait il habitait lui-même Versailles, et qu'en fait c'était parce qu'il voyait deux hommes faire peut-être une fellation en arrière-plan.
J'étais sûr que vous alliez donner des détails supplémentaires.
Qu'il avait demandé l'interdiction de l'affiche, voilà.
Donc demeure la possibilité d'intervention des maires, mais centralisation, avez-vous dit, quand le cinéma devient une industrie. C'est le centenaire de la commission qu'on appelait commission de censure, on devrait le fêter, mais on ne fête ni son centenaire et on ne pense non plus à supprimer son budget. Ça, personne n'a jamais supprimé son budget. Ça vous a permis d'observer, dans une dizaine de séances, en 2017-2018, la façon dont fonctionnait la commission plénière, d'où dépendent des sous-commissions. C'est Jean-François Théry, qu'on entendait tout à l'heure, président historique et conseiller d'État de la commission. C'est lui qui intervient ici de nouveau. Nous sommes en 1987, bien avant vos visites.
La commission est édifiée. Est-ce que quelqu'un a une hésitation ?
Non.
Bon. Bon, alors même chose. Ça s'appelle, vous avez dit, sodomiser. Bien. Alors, chers amis, nous avons vu ce film, qu'est-ce que nous en faisons ?
Vous savez, c'est pas un ciné-club, ici. Hein, c'est pas les meilleurs films qu'on voit. On voit les films qui posent problème. Il y a les sous-commissions, auxquelles appartiennent d'ailleurs les plus jeunes membres de la commission. Ces sous-commissions voient tous les films qui passent, et puis me font un petit rapport sur chaque film, et moi, je sélectionne les films qui posent des problèmes pour les montrer à la commission plénière. Je peux vous dire que c'est pas les meilleurs.
C'est pas un divertissement, car nous voyons beaucoup de très mauvais films.
je vous dois dire qu'alors là, nous sommes servis.
Position de Jean Dréville, un professionnel de la profession, grand réalisateur. D'ailleurs, comment s'organise la disposition des uns et des autres dans la salle de projection ?
Alors, souvent, les professionnels du cinéma qui font partie de la commission se mettent plutôt devant au premier rang. Et souvent, les experts, par exemple, qui font aussi partie de la commission, se mettent plutôt au fond de la salle. La commission étant composée de représentants de l'État, de professionnels du cinéma, d'experts et actuellement de jeunes.
Mais de qui les représentants sont-ils les représentants ? Alors, les professionnels du cinéma, je comprends, mais... qui représente les enfants, le point de vue des enfants.
Alors, le point de vue des enfants, en fait, il est projeté, c'est-à-dire que chacun des membres doit construire le point de vue d'un spectateur potentiel qui est celui des enfants par rapport auquel on doit classifier les films.
Donc vous ne pourriez pas être membre de la commission, vous, puisque vous ne regardiez pas de films quand vous étiez enfant.
Alors, il faudrait que... En fait, souvent, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on construit ce point de vue des enfants, ouais. Et en posant la question aux membres de la commission, ce qu'il apparaît, c'est que très souvent, ou bien les membres se réfèrent à leurs propres souvenirs d'enfance parce que ils ont très souvent un film qu'ils n'auraient pas dû voir à leur âge. Et, ou bien ils se réfèrent à des enfants qu'ils connaissent, par exemple des gens qui sont parents disent tel film je l'interdirais à mes enfants, je voudrais pas que mes enfants le voient, ou s'ils sont enseignants ils se réfèrent, ou s'ils ont une activité éducative avec des jeunes ils se réfèrent à cette pratique en fait.
Vous-même quand vous écoutiez la radio clandestinement, vous n'auriez pas dû écouter les émissions de Petites Annonces ou Radio Libertaire.
C'est vrai, j'avoue. Même j'avais même des lectures qui auraient été sans doute surprenantes pour un garçon de 14 ans.
Je peux vous raconter un souvenir de jeunesse au Quartier Latin. Dans les années d'après 68, il y avait un théâtre qui s'appelait le Théâtre des Deux Boules. Et les spectateurs, c'était interdit aux moins de 18 ans, mais j'ai dû me glisser, voyaient au-dessus de leur tête dans un filet évoluer un couple. C'était l'époque de la révolution sexuelle. En 1975, un peu contraint et forcé, le secrétaire d'État à la culture d'alors, Michel Guy, qui avait sans doute un autre point de vue que celui qui lui a été imposé, a défini des films X, des films soumis à une telle taxation qu'ils ne pouvaient être projetés que dans des salles spécialisées.
Non, ben je vais aller voir l'autre film, le film de la salle 2.
Oui, le titre, s'il vous plaît, monsieur.
Deux grosses en chaleur.
Oui, deux grosses quoi, s'il vous plaît. Le titre complet du film, s'il vous plaît, monsieur.
Non, mais j'arrive pas à lire.
Si, regardez, approchez-vous. Pardon, approchez-vous. Regardez, c'est les lunettes. Le deux grosses. Deux grosses salopes en chaleur. Hein. C'est bien marqué, c'est très clair. Deux grosses salopes en chaleur. Donc une place pour deux grosses salopes en chaleur.
Oui, bah oui. Je suis obligé. On est obligé.
Pardon.
Je travaille pour un journal. Je fais un reportage. On est obligé.
Quel journal?
Le petit pèlerin.
Je veux voir votre carte de journaliste. J'ai besoin de vérifier si vous êtes journaliste pour le petit pèlerin.
Ouais. Je ne l'ai pas. J'ai oublié chez moi.
Alors vos papiers.
Et pourquoi je vais vous donner mes papiers, moi?
Quel âge vous avez?
J'ai 38 ans, j'ai l'âge, tiens.
Ah oui, vous avez l'âge. C'est limite, hein, ce film est interdit au moins de 37 ans. Alors, vous voyez,
on aura reconnu Muriel Robin. Alors l'interdiction au moins de 37 ans, ça n'a jamais existé. Mais dites-nous un peu, Arnaud Esquéré, où était avant 90? Peu après qu'a été définie l'enclave des films X, où étaient les niveaux de classification par âge?
Avant 90, vous pouviez avoir une interdiction au moins de 18 ans, et puis vous aviez une interdiction au moins de 13 ans aussi. Et une chose que les gens savent peu, c'est que cette interdiction qui vise la jeunesse, elle a été mise en place en fait en 1941-1942 sous Vichy, et elle n'était pas à l'origine en France, qui considérait qu'un film pouvait être autorisé à tout le monde ou interdit à tout le monde de 1920 à 1941-42. Et dans l'année 1974, quand Valéry Giscard d'Estaing a été président, il a dit il n'y a plus de censure. Donc à ce moment-là, c'était une déclaration d'intention politique. Il y a eu une explosion des films dits pornographiques. Et effectivement, en 1975, une loi est arrivée qui est dite la loi X, qui visait les films pornographiques en l'état accent, mais aussi des films violents. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, se met en place ce double positionnement qui est de viser d'une part les actes sexuels, d'autre part l'incitation à la violence dans les films pour protéger la jeunesse.
Michel Guy aurait voulu faire une réforme libérale. Les intentions de Jacques Lang quand il devient ministre de la Culture et pour longtemps à partir de 1981 sont un peu les mêmes. Il réussit à aller plus loin, mais il est bloqué dans sa détermination par le fait que la question du contrôle est une question interministérielle. Cependant, il a réussi à faire baisser dans la classification des âges, moins 18, moins 16, moins 13, moins 12.
En fait, en 81, Théry, qui est donc
président
de la commission qu'on a entendu, commence à réfléchir, mais la réforme n'aboutit qu'en 1990, et cette réforme est une réforme importante pour la commission, même si elle n'est peut-être pas perçue dans son importance au moment où elle a lieu, où les âges sont abaissés effectivement de 18 à 16, de 13 à 12, où on fait rentrer des jeunes dans la commission.
Des 18 de 25 ans.
Absolument.
Qui ont vu des films dans leur jeunesse.
Et autre mesure importante, on supprime alors ce qu'on appelle la possibilité d'une pré-censure, c'est-à-dire le fait qu'on puisse faire des coupes, des coupes soient demandées en fait dans un film, ce qui mesure qui fait que les critiques considèrent qu'ils peuvent désormais siéger dans la commission.
Parmi les professionnels de la profession dans la commission, il y a des représentants du syndicat des critiques.
Absolument.
Parce qu'il y a un syndicat des critiques qui délivre des cartes, vous savez. La carte verte, la couleur destinée autrefois, enfin bon, on va pas expliciter. Jacques Lang prend l'engagement personnel de ne pas interdire.
Jacques Lang prend dès 81, il se présente comme un amoureux de la liberté d'expression, tout en tenant en compte le fait qu'il faut protéger la jeunesse. Mais donc il décide en fait de s'opposer à tout avis qui tendrait à une interdiction des films. Et un cas intéressant d'ailleurs à ce moment-là est Mad Max, qui est reproposé, qui avait été interdit au moins de 18 ans, bien que les membres de la commission dont j'en faisais partie, Théry, voulait l'interdire totalement. Et Lang, en fait, s'oppose à ça. Et finalement, le film est autorisé sous la pression de Jacques Lang.
Alors, cette période va se terminer, dites-vous, en 2000. Et vous la considérez dans votre livre « Interdire de voir », Fayard, Arnaud Esquéré, comme une parenthèse. Alors, soyez attentifs, non pas aux paroles, mais au style et à l'ambiance. C'est important, l'ambiance d'un film, pour le définir. Nous sommes dans Baise-moi, Virginie Despentes, adaptation de son livre, et la bande originale fait une large place au peuple de l'herbe. Je vous laisse imaginer ce que ça désigne.
I think that type of sexual activity is disgusting.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Nous parlons donc avec Arnaud Esquéré du contrôle du cinéma par l'État. Vous aurez noté que tous les choix de réalisation d'Audrey Ripouille sont dans la retenue et la quasi-dissimulation. Alors que le problème avec le film Baise-moi, c'est la représentation explicite, peut-être même sans simulation, deux jeunes filles, l'une actrice porno et l'autre prostituée, vont se livrer à des crimes. Qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là ?
Le film Baise-moi, donc, qui date de 2000, marque vraiment un tournant et on peut d'ailleurs le comprendre en rappelant qu'en 1999, quand le film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, est distribué, il est en France autorisé à tous les publics avec un avertissement, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays où il est beaucoup plus restreint. Et Baise-moi, en 2000, le film, le visa du film, donc le film sort en étant interdit au moins de 16 ans, et ce visa est contesté par une association qui s'appelle Promouvoir et qui s'illustrera par la suite à nouveau, en considérant que ce film devrait être classé X.
Donc un recours en justice pour une reclassification, un démenti que la justice pourrait apporter à la décision de la commission de classification est attendu par cette association.
Et effectivement, les juges ont considéré en fait que le moins de 16 ans n'était pas suffisant et que en dépit des intentions déclarées des deux réalisatrices, il s'agissait d'un film qui pouvait être considéré comme étant pornographique, ce qui a conduit par la suite l'État, le gouvernement, à réintroduire une interdiction aux moins de 18 ans afin de ne pas faire en sorte que ce film soit classé X.
Deux leçons donc à tirer, il n'y a plus de film classé X maintenant pratiquement, mais deux leçons à tirer de cette affaire Baise-moi, le retour de l'interdiction aux moins de 18 ans et le rôle d'associations qui font des recours en justice. Alors Promouvoir est animé par son fondateur et toujours avocat André Bonnet, qui se définit comme une figure d'une extrême droiture et qui est un fin juriste parce que il a réussi plusieurs fois à mettre des bâtons dans les roues à l'exploitation de plusieurs films, jusqu'à ce film d'animation Sausage Party. Je vous laisse pas le définir parce que vous allez dire que c'est formidable, mais formidable ça veut dire qu'il fait peur. Donc ce sont des aliments qui sont attirés les uns les autres par une sorte d'attraction sexuelle universelle.
Écoutez, ce Sausage Party, c'est un film d'animation dans lequel une saucisse essaye d'avoir une relation avec une miche de pain.
Et vous trouvez ça normal?
En rayon obscur, tu iras, par-delà les glaces.
Pourquoi? Il y a quoi dans ce rayon?
Oh, tu verras. Mais sois conscient qu'une fois que tu auras vu ces choses, ta vie entière sera foutue en l'air. Amuse-toi bien.
Ce film n'est pas pour les enfants et les scènes elles-mêmes sont parfois choquantes. C'est-à-dire quand on est un adulte et qu'on les regarde, on a un instant de sidération. De sidération parce qu'on se dit mais comment des adultes peuvent-ils en arriver à faire un film d'animation de ce type avec de telles scènes? Quel est le processus psychologique par lequel ils passent? Pourquoi dénaturer les aliments, faire en sorte que plus tard, quand les enfants vont aller acheter un hot dog, ils ne pourront pas s'empêcher de penser à un sexe d'homme qui enfile un vagin de femme? Vous voyez, dans les cours d'école, on voit des enfants qui ont vu Sausage Party, qui viennent avec des carottes en classe et qui, dans la cour de récréation, essaient de mettre la carotte sous la jupe des filles.
André Bonnet, si vous entendez des rires, ce sont ceux des spectateurs de l'émission de Yann Barthès à laquelle il a participé. Oui, mais les mêmes qui rient là. Vous n'envisagez pas beaucoup cette hypothèse dans votre livre Interdire de voir, Arnaud Escarré. Ils peuvent être antipatriarcaux et réclamer des sanctions contre les films où il y a trop de mâles alpha. Ils peuvent appartenir à des minorités sexuelles et dire attention, transphobie, homophobie. Ils peuvent appartenir à des minorités ethniques et dire attention, nous sommes racisés sur l'écran. On voit ça au théâtre, on va le voir porté par des associations au cinéma, quasi nécessairement.
C'est une évolution possible qui touche à une évolution, enfin à une définition plus générale de la question de la limite de la liberté d'expression. Pour le cinéma, il se trouve que au jour d'aujourd'hui, ça ne s'est pas encore posé. Il est possible que ça se pose.
Jean-Claude Brissot, la Cinémathèque n'a pas pu organiser sa rétrospective et il est mort cette semaine sous un flot de remarques pas très flatteuses. Et son cinéma s'en trouve discrédité.
Il y a sous la question de la sur les questions de la sexualité, il y a effectivement pas seulement des revendications qui sont faites par des associations de défense de la jeunesse et qui sont chrétiennes, mais il peut y avoir d'autres types d'interventions de mouvements. Cela étant dit, au jour d'aujourd'hui, il peut y avoir des protestations qui sont des protestations qui font comme une sorte de pression, mais qui ne sont pas pour l'instant, qui ne se sont pas traduites pour l'instant par des actions
en justice. Et qui ne se multiplient pas par des actions en justice. Les documentaires sont touchés aussi. On aurait pu évoquer le cas de Salafiste, qui n'a pu être diffusé parce qu'il était assorti d'une interdiction de dernière minute au moins de 18 ans que dans 4 salles au lieu de 40. Évidemment, c'était un avantage dans les festivals à l'étranger parce que ça arrivait avec le label censuré en France, donc ça a fait le prime time à la télévision tunisienne. Et 3 ans après, le Conseil d'État vient de lever, le mois dernier, l'interdiction à moins de 18 ans.
Oui, c'est-à-dire que le film Salafiste, il se trouve que c'est un autre motif qui a été mis en avant, qui est la question de la dignité humaine, de l'atteinte à la dignité humaine, motif qui a été introduit juridiquement en 2009, qui est un motif assez large. Et ce film, lorsqu'il a été question de le distribuer en janvier 2016, soit quand même, il faut le rappeler, un an après les attentats de 2015, il a été interdit au moins de 18 ans avec un avertissement, ce qui en fait condamne. Il faut voir qu'en fait, interdit au moins de 18 ans, ça condamne en quelque sorte la carrière d'un film.
Parce que après la carrière en salle, celle-ci va être va avoir son périmètre très réduit. C'est la carrière à la télévision,
c'est la carrière
en DVD
à la télévision,
qui est compromis.
Et ça va absolument. Et il faut voir qu'une classification engage en fait la carrière d'un film aussi à la télévision, même pour des catégories inférieures. En fait, ça veut dire, par exemple, à moins de 16 ans, ça veut dire ne pas pouvoir être diffusé en deuxième partie de soirée. Et il se trouve qu'il peut aussi y avoir des clauses, par exemple, qui font qu'à ce moment-là, un film le producteur en fait perd de l'argent.
Et il pense à la commission de classification conséquences économiques.
À la
Quand vous avez assisté aux séances, vous avez vu des discussions portées là-dessus.
La question économique est parfois mise en avant par certains professionnels du cinéma, mais elle est tout de suite, ou elle est très souvent, si vous voulez, mise à l'écart, parce que la question qui se pose, c'est de réfléchir aux effets des films sur les enfants. Le débat tourne autour du fait qu'on doit mettre à l'écart, d'une part, l'intention exprimée de l'auteur, c'est-à-dire on considère que l'auteur n'est pas à même de savoir quelles sont les conséquences de son film, mais c'est eux qui déterminent. Et ils procèdent souvent en raisonnant par comparaison, en fait, en comparant les films entre eux.
C'est pas comme au Festival de Cannes, sur lequel on reviendra demain. Au Festival de Cannes, les intentions des auteurs elles sont explicites dans les conférences de presse.
Oui, c'est-à-dire que effectivement, ça fonctionne même, on peut dire, à l'inverse du Festival de Cannes, où les critiques viennent à la conférence de presse et exigent des réalisateurs qui disent quelle est l'intention, avec quelle intention ils ont réalisé ces films, et quand ils s'y refusent, à ce moment-là, ils peuvent même être assez virulents et demander et ensuite reprendre cette interprétation qui se trouve associée au film. Et c'est vrai que là, dans la commission, c'est un système inverse où on déconnecte l'intention exprimée du réalisateur du film.
On reviendra sur le cinéma en ce deuxième jour, demain mercredi, du Festival de Cannes. Vous citez souvent Manuel de Oliveira qui dit qu'un film n'est achevé, non pas que s'il rencontre la commission de contrôle, non, un film n'est achevé que quand il rencontre les critiques. Nous parlerons de deux grands critiques, Truffaut et Bazin. Interdire de voir, c'est chez Fayard, Ilinka Negulesco, Ronan Mahé, Audrey Ripouille. 14h, juste un instant pour dire votre sujet, cher Mathieu.
La science des muscles, Jean, dans la tête au carré.
Voilà, le muscle qui accélère dans quelques minutes.